L'état de méditation permanente, elle est sous-tendue dans les 12 secondes. L'état de fusion avec le Père. Il ne faut pas croire que vous allez être là, puis avancer comme ça. Non. L'initié va qu'à ses occupations quotidiennes, comme tout à chacun, mais il est toujours en double regard. C'est-à-dire que les 12 secondes sont devenues un instinct spirituel et divin permanent. C'est vers cela, si vous voulez, qu'il faut tendre. À ce moment-là, l'identification avec le Père est en phase d'accomplissement. L'état de samadhi, c'est quand l'être que vous êtes occupe la présence terrestre. Et par conséquent, il est en alignement avec celui qui donne la vie à la planète. Mais essayez de comprendre que ça n'est pas épuisant ni complexe. Il faut être clair. Voilà. Et bien évidemment, être clair, ça veut dire même si tout s'agite autour de soi.
En fait, il faut être en conscience.
Oui, avec un C majuscule. Il faut être dans l'âme de l'homme céleste. C'est-à-dire un pétale ouvert et rayonnant. C'est vers cela que est tendue toute la méditation. Et quand le Logos solaire aura amené tous les êtres humains de son système à cet état, il pourra déposer son contrat de vie aux pieds de grandes vies qui sont pour lui ses pères en disant « J'ai accompli mon contrat de vie ». Et cela s'effectue au bas de l'échelle, c'est-à-dire que l'homme est le premier qui doit consciemment poser aux pieds du Père son contrat de vie en disant « J'ai rempli mon contrat de vie ». J'ai amené toutes ces vies lunaires à être libérées de la casaque de pollution qu'ils ont subie à travers la traversée des hommes du règne humain. Vous voyez donc que c'est un entraînement progressif, difficile, parce que d'une certaine façon, c'est aussi s'offrir au feu. C'est offrir nos braises à la flamme divine. Hein, ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que on va avoir les épreuves libératrices. Le feu dévorant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va, curieusement, on va au Père. Il vient à nous. Attention, le feu. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le terrain ardent. C'est la mise à l'épreuve de ce qui a à être maîtrisé. Alors il faut savoir que ce processus de méditation, il se déroule également dans le cycle des 70 vies. Vous aurez des vies de repos et vous aurez des vies d'invocation et des vies d'évocation. Que l'on peut distinguer sous l'aspect que les êtres du cinquième règne seront en cycle ésotérique et d'autres seront en cycle exotérique. Ça veut dire que certains n'auront pas une vie, on va dire, publique au service des autres, mais par contre ils auront une démarche de quête intérieure et de réalisation consciente, alors que d'autres devront montrer leur nature spirituelle et divine sur le terrain. Ils n'auront pas forcément la conscience de ce qu'ils réalisent en tant qu'être. Ça crée d'ailleurs des problèmes dans le temps. Il faut savoir que à l'époque templière, par exemple, vous aviez d'un côté donc toute cette poussée d'être au niveau réalisation, et puis de l'autre côté, vous aviez des êtres aussi du cinquième règne, mais qui curieusement étaient d'ordre public. Ce qui n'a pas empêché à un moment donné que les uns se battent avec les autres, ou combattent les autres. La méditation est la première leçon fondamentale que l'homme doit apprendre quand il acquit la capacité de fonctionner sur le plan mental. En fait, si vous voulez, le premier aspect de la méditation, on va dire en usage du mental, ça va s'appeler la réflexion, l'analyse. Le but de la méditation est l'aptitude à établir un contact avec le soi intérieur divin, et par ce contact, arriver à prendre conscience de l'unité en ce soi, tous les sois et le soi de tout. Non pas théoriquement, mais comme un fait de la nature, la réalité. Alors à chaque fois, vous avez les références de l'extrait, n'est-ce pas ? mais c'est pour en faire un sujet cohérent au sens où comprenez que les livres ont été magnétiquement verrouillés et que ce qui était important, c'est de replacer les éléments pour qu'il y ait la lecture entre les lignes du sujet. Ah bah c'est tous les livres de Bellet ou de Blavatsky. Hein, mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, que le mode pour verrouiller magnétiquement les livres, ça a été en fait d'éclater les sujets. Il est d'ailleurs très intéressant quand on va dans des strates beaucoup plus élevées d'approche, si vous voulez, de sujets importants. Une clé, ça peut être une phrase dans un livre perdu dans un coin. Et c'est la clé. Et la clé est là.
Pourquoi c'est si dur à lire ? C'est parce que c'est épars ?
Ben, c'est, je vous parle d'un sujet, puis on va parler de ça, et puis on parle, au bout d'un moment, si vous voulez. Parce que si vous n'avez pas les raccordements, quelle est la démarche, si vous voulez, de l'instruction ? C'est de vous donner une vue d'ensemble du château, dans lequel on rentre progressivement, mais pas, comme on dit, on ne va pas tout de suite dans la quatrième aile de la troisième. Bon. Et à partir de là, quand vous aurez un plan général et puis des lignes de compréhension directrices, après vous pouvez vous balader. Ouais. Mais autrement, je n'ai pas pour l'instant, excusez-moi, hein, ça fait quand même bientôt 30 ans, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui, de lui-même, a pu se balader, on va dire, aisément dedans. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup approché. Mais on va dire que le gros du peloton, ça a été de dire, bah, j'y suis allé, ouais, et puis j'ai lâché. Ça manque de logique, hein, Lucis. Hein, pourquoi il change comme ça ? Aujourd'hui, il s'autorise même à changer des textes. Mais pourquoi ? Ils auraient dû savoir que c'est en fait des outils de travail. Et que avec le temps, les étudiants, bah, ils vont se trouver avec des décalages qui vont leur poser complexité. Alors qu'ils auraient purement et simplement pu se tenir à la matrice d'origine. Hein, parce que là, bah, vous le voyez, mais ça devient de plus en plus pénible. Parce que, je vous dis, au fur et à mesure, non seulement maintenant ils sortent des nouvelles éditions, mais en plus ils changent parfois des passages. Alors, bon, bah, la doctrine secrète, en fait, les livres français sont numérotés normalement. Donc, il n'y a pas de numérotation particulière, puisqu'en fait, si vous voulez, vous avez du 1 au 6. Ce qui veut dire que quand vous avez DS1, bah, c'est le livre 1, quoi. Hein? Alors, participer activement, dynamiquement au dessein divin. Chercher à faire avancer la manifestation des idées du Créateur. Cela implique certaines conditions. Connaître la véritable signification de la méditation. On s'offre comme canal. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que l'énergie qui afflue sur le plan terrestre, elle est dépendante des canaux. Le Père limite intentionnellement sa puissance à ses fils. Il pourrait très bien faire usage de sa puissance, de sa volonté. Mais sa petite sœur jumelle s'appelle la patience. Ça fait 18 millions d'années qu'il attend que les hommes aiment ses lois. Et s'il n'avait pas la patience, s'il faisait du forcing, il casserait la baraque. C'est la nuance pour l'homme, si vous voulez, qui dit « je veux » et celui qui dit « j'aimerais ». Méditer le mode de pénétration dans le domaine de la raison juste, le plan bouddhique. C'est un acte de service dans le but d'apporter l'illumination aux autres. Alors, dans les perspectives de montée en puissance de la méditation, sachez que lorsqu'un être, en tant qu'unité de groupe, est arrivé au contact avec sa racine de vie, à ce moment-là, il sème dans le mental humain. Oui, semer. Un semeur. Voilà. Et les idées courent le monde. Vous voyez donc une dimension supérieure à cet état de méditation. L'être est un observateur silencieux des affaires humaines. Mais là encore, le Père est potentialité. Et c'est par la réalisation de ses fils qu'il agit. La participation au processus créateur divin est l'objectif de tout travail de méditation. Le créateur spirituel est celui qui, ayant obtenu l'alignement parfait, la vibration uniforme, reçoit dans son corps physique l'énergie de la monade, c'est-à-dire de sa racine de vie. Dès que les facteurs suivants ont été mis en contact l'un avec l'autre, ou aussitôt que leur mouvement ou activité est synthétisé, ceci est un sujet des plus importants pour les étudiants de la méditation. Ceux qui foulent le sentier de la réalisation doivent l'examiner et le mettre en œuvre pratiquement. C'est un sujet qui n'a pas encore été développé au niveau de ce qui est le lotus égoïque, hein, mais sachez que notre corps causal de l'âme, c'est en fait un lotus. Ça se présente comme un lotus. Alors, ce lotus, il a trois pétales centraux. L'un va être lié à l'intelligence, l'énergie d'intelligence, l'autre à l'énergie d'amour-sagesse et l'autre à l'énergie de volonté. Et ensuite, vous avez autour neuf pétales et ces neuf pétales vont interférer en fait entre eux. Bon, pourquoi un pétale? Eh bien, c'est parce que, si vous voulez, entre l'aspect père, la racine de vie, et l'aspect mère, vous avez un échange permanent d'énergie. Donc un pétale, c'est parce que il y a l'énergie qui descend et l'énergie qui monte. Alors vous avez une triple triplicité, c'est-à-dire que vous allez avoir la rangée des pétales d'intelligence. Vous aurez un pétale intelligence-intelligence, un pétale intelligence-amour, un pétale intelligence-volonté. Puis vous aurez le cercle médian d'amour, où vous aurez le pétale d'amour-amour, vous aurez le pétale d'amour-intelligence et le pétale d'amour-volonté. On verra tout ça en détail, mais c'est pour répondre quand même que ça ne vous paraisse pas nébuleux. Et vous avez le cercle de volonté, vous aurez le pétale volonté-volonté, vous aurez le pétale volonté-amour, et vous aurez le pétale volonté-intelligence. Et puis, vous avez les trois pétales centraux qui, en fait, protègent le joyau. Et le joyau, en fait, c'est la liaison avec la racine de vie. Alors, vous aurez les trois rangées de pétales, vous aurez les trois corps, vous aurez les trois centres majeurs qui concernent justement l'être, vous aurez le triple feu de Kundalini, c'est-à-dire la Kundalini, c'est l'énergie de la mère ou aspect intelligence, l'énergie du fils ou aspect amour-sagesse, et l'énergie du père ou aspect volonté. Quand ces trois énergies sont actives et dynamiques, eh bien, vous avez les trois qui s'entremêlent à partir du centre basal et qui déclenchent l'ouverture de tous les joyaux des centres et qui remontent jusque le centre au-dessus de la tête. Vous avez les trois centres de la tête, la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre altamajor. Alors, il faut comprendre que dans cet échange entre le microcosme et le macrocosme, vous aurez d'un côté les centres du corps énergétique et de l'autre vous avez les glandes liées au corps matière. Et qu'en fait, doit y avoir un alignement entre l'aspect matière et l'aspect esprit. Quand les glandes se mettent en activité, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, le monde médical commence à saisir la fonction du corps pituitaire, hein, de la glande hypophyse, mais la glande pinéale, bah. Quant au centre altamajor, en fait, c'est un centre temporaire, si vous voulez, qui est à la base du cou, et on verra que l'homme a en fait établi des ponts de jonction avec ses corps subtils, et qu'au fur et à mesure qu'il crée ces ponts de lumière qu'on appelle techniquement l'antakarana, terme oriental, eh bien, à un moment donné, quand l'énergie remonte, le centre altamajor, c'est une masse nerveuse, si vous voulez, qui fait la jonction des centres du corps avec les centres de la tête. Bon, et quand cette énergie remonte, elle déclenche la mise en activité de la glande pituitaire et de la glande pinéale avec le centre ajna et le centre de la tête, et cela génère ce qu'on appelle le troisième œil et la lumière dans la tête. C'est un sujet important. C'est pour vous montrer qu'en fait, tout ça a un processus de réalisation technique scientifique. Ça fonctionne comme une horloge. Et ce processus fonctionne pour l'être humain et il fonctionne pour les centres planétaires, pour la planète, pour le système solaire, pour le système cosmique. Il y a correspondance de fonctionnement. Je n'ai pas dit analogie, hein, je dis correspondance. Alors, la science de la méditation remplacera la science de la respiration ou l'Aya Yoga, mais seulement dans la forme la plus haute de cette dernière. Yoga, ça veut dire union. À chaque fois que l'homme apprend à maîtriser un corps, il a à effectuer une union avec l'ensemble. La maîtrise du corps physique, danse, par la respiration, l'hatha yoga, je dirais, ce yoga est totalement dépassé pour l'occidental et nécessaire pour l'oriental pour cause karmique. Il faut bien comprendre qu'une conscience collective d'une sous-race qui a parfaitement intégré en conscience collective la renaissance, la réincarnation et le karma, et si l'attitude c'est « je suis éternel, on verra dans la vie suivante », eh bien, vous imaginez qu'il y a des retombées karmiques qui handicapent les individus. Ce n'est pas le cas de l'occidental, dont la conscience collective, pour l'instant, est préservée par ignorance de ces aspects-là. Donc, il n'en a pas la sanction karmique. Il ne sait pas. S'il n'y a pas de conscience, il ne sait pas. Alors, vous avez ensuite le Laya Yoga, qui est associé souvent à l'Hatha Yoga, puisque, en fait, c'est les exercices de respiration énergétique. Je fais une parenthèse. Beaucoup d'enseignants du Laya Yoga pensent qu'ils font monter la Kundalini. Ils ne font monter qu'un aspect du feu de Kundalini. Et que, par conséquent, s'il n'y a pas de développement spirituel qui accompagne l'exercice, il se passe que les membranes entre les centres, au lieu de se dissoudre, sont brûlées. Et que cela est un retard conséquent dans l'évolution. La maîtrise du corps émotionnel s'appelle le Bhakti Yoga. La maîtrise du corps mental s'appelle le Raja Yoga. Le plus bel ouvrage étant les Yoga Sutras de Pantanjali, hein, la lumière de l'âme. Ensuite, la maîtrise du corps bouddhique, c'est Agni Yoga. Ensuite, la maîtrise du corps atmique, c'est le yoga de synthèse, qui pour l'instant n'a que cette appellation et sur lequel il n'y a pas eu d'écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que un yoga plus élevé entraîne par son bon usage l'alignement des yogas inférieurs. Donc l'étudiant n'a pas à se soucier des yogas si pratiques. Le Raja Yoga ou la maîtrise du mental ou l'exercice de sagesse, l'Agni Yoga, ou s'il rentre non plus en réalisation spirituelle mais divine, à ce moment-là, les alignements inférieurs sont automatiques. Ne pas vous en soucier. C'est là où nous touchons en fait les deux aspects de la réalisation de l'être. Ou il peut le faire par transmutation, ou il peut le faire par transformation. Ben oui, parce que si vous utilisez le vrai, le beau, le bien, le nettoyage de l'inférieur se fait automatiquement. Donc vous avez le ciel qui vous aide, symboliquement, plutôt que vous soyez tout seul à assumer le chantier. Voilà. Mais là, c'est va au ciel et le ciel viendra à toi. Avec quand même la nuance, hein, c'est que quand on dit va au ciel, oui, mais n'oublie pas que tu dois avoir les pieds sur terre. Le but de la méditation est d'amener le libre jeu de toutes les forces qui arrivent venant de l'âme. Ce qui vous est donné là est le premier cycle lié à l'usage des énergies. Nous sommes dans la base fondamentale du travail de l'aide du cinquième règne. Mais comprenons bien que nous avons une vigilance de toute instance et du bon usage des énergies. Voilà, méditer, c'est pénétrer dans le mental universel dans le but d'apporter l'illumination aux autres. Alors, le mental universel pour le plan atmique. Pénétrer dans la zone encore non révélée des desseins de Dieu qui peuvent être immédiatement révélés. Alors vous verrez que, en fait, dans le processus d'initiation, c'est-à-dire de progresser dans les plans de conscience et d'y développer nos corps subtils, ce qui nous permet d'y fonctionner, eh bien, nous avons dans ce processus des prises de conscience et des révélations. Hein, je pense que dans notre échange, vous apercevez que des choses, en fait, émergent en compréhension. Tout le processus de pénétrer dans les plans subtils, donc dans les champs de conscience, c'est d'accéder à des révélations. Je vous rappelle que les marches, ou plutôt les paliers fondamentaux, c'est « je pense, donc je suis ». Puis ultérieurement, « je suis cela ». Puis ultérieurement, « j'ai à devenir ce que je suis ». Puis « je suis devenu ce que je suis ». Le Père a un dessein. Ce dessein, c'est « pourquoi a-t-il créé cette planète de souffrance et d'épreuve ?» Ce dessin est une partie d'un dessin beaucoup plus vaste qui relève du logos solaire. Lui-même est une partie d'un dessin encore plus vaste qui est celui d'un logos cosmique. Mais ces grandes vies ne se manifestent pas, comme on dit, pour faire du tourisme. C'est pour pousser plus en avant dans cet horizon à jamais inaccessible qu'on appelle l'absolu. Plus une grande vie progresse, plus l'absolu ouvre ses bras. Et ça, à tout jamais. Ce qui veut dire qu'en fait, il est donné aux êtres humains, progressivement, de pénétrer dans des plans de révélation. Pour atteindre ce que les guides autour du Père appellent la grande révélation. Alors, il faut savoir que ces révélations sont portés par des grandes vies qui en sont la pure expression. Vous avez Vaisa qui est à la source de la Bhagavad Gita, vous avez le Bouddha qui a apporté la connaissance de la sagesse, vous avez le Christ, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont les purs représentants d'un plan de conscience qui est donné à l'humanité en fonction d'un stade qu'elle-même a atteint, même si c'est un point de départ pour cette humanité. C'est ce qu'on appelle les avatars. Un avatar est un pur représentant de la ligne d'énergie qu'il vient apporter. Le Christ est un pur représentant de l'énergie d'amour, au même titre que le Bouddha est un pur représentant de l'énergie de sagesse. Savez-vous quelle est la différence entre un Christ et un Bouddha ? Quand un être intègre en maîtrise l'intelligence et l'énergie d'amour, il devient un Christ. 8 énergies. Là, je renvoie aux astrologues les énergies de la croix mutable, les énergies de la croix fixe. Il devient un Christ. Quand il intègre l'énergie de l'aspect père, la volonté, il ajoute 4 énergies, il devient un Bouddha. C'est pour préciser la nuance et surtout le bon usage des deux termes. Alors, bien évidemment, faisons la distinction entre l'appellation Christ, qui est une fonction liée au deuxième rayon. En d'autres termes, aujourd'hui, le chef de la hiérarchie, c'est Maitreya, en fonction de Christ, parce que nous sommes dans un deuxième système solaire dont l'énergie caractérisée est l'énergie d'amour-sagesse. Dans le premier système solaire, si vous voulez, c'était le troisième aspect, le Mahashoan, c'est-à-dire l'énergie d'intelligence. Dans le troisième système solaire, ce sera le Manu, c'est-à-dire le premier aspect qui développera l'énergie de volonté. Mais tout être a à devenir un Christ, c'est-à-dire un être de lumière accompli. C'est à portée, hein, il ne faut pas que vous soyez là en disant c'est inaccessible. Ah oui, puis vous avez des avatars mineurs, des avatars planétaires, des avatars solaires, des avatars cosmiques. Mais un avatar cosmique, eh bien, il est apparu dans notre planète au moment de l'individualisation du règne animal, les hommes animaux. Il a apporté la flamme du mental. Et vous avez des avatars qui ne viendront que pour moissonner la planète. En tant qu'avatar cosmique. Quand ils viendront, en fait, ils déclencheront le processus d'abstraction de la vie sur Terre. Ça s'appelle l'avatar de synthèse.
Et ça, c'est Saïd Baba qui est actuellement fermé.
Alors, Saïd Baba est en préparation de sa mission future, de sa prochaine vie. Et il va fonctionner en tant que synthèse. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans son ashram, il a réuni en tant que symbole les symboles des 5 religions. Mais il s'y prépare. Mais il y a toujours eu, à travers les millénaires, des Hermès, c'est une appellation générique qui désigne le rôle de Mercure, des 4 aspects de Mercure. Il y a toujours eu ça. Simplement, les gens confondent. Adam, le plus bel exemple, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, c'est pas un couple, n'est-ce pas? Adam et Ève, c'est l'humanité encore physique, sexuée. Et il faut gommer hein, parfois des absurdités. Quand il est dit que Ève est née de la côte d'Adam, bah, c'est pour indiquer que oui, c'était le moment où justement ils sont séparés en sans que sexe, et par conséquent, ils ont pris des os.
Côte et côté.
Oui, 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 mais c'est pour bien montrer que en fait, l'être androgyne, en fait, c'est sexué.
Et en fait, dans les avatars, ils sont souvent issus de l'Inde. Parce que ça dépend des rayons.
En son temps. Mais il y en a de cachés des avatars. Les silencieux de la Terre. Vous savez, il y a un principe simple pour le retour des guides. Hein, ce qui est quand même quelque chose de on ne peut plus précieux pour l'humanité, si les guides ne reviennent pas. Simplement, les guides ne feront jamais état de leur contexte tant que Maitreya n'est pas réapparu. Cherchez pas les guides, ils vous diront pas qui ils sont.
Tant qu'il ne s'est pas révélé.
Vous parlez d'eux.
Maitreya.
Ah ben non, réapparu. Ah non, il est là, hein, il est là, mais non, c'est une apparition physique. Maitreya s'est préparé, pour vous faire une confidence, il s'est préparé à un Maya Virupa qui va durer 2000 ans. Donc quand il va réapparaître, vous le verrez comme il est reparti, c'est-à-dire il émergera en fait du ciel. Et il apparaîtra en Maya Virupa, c'est-à-dire en fait, pour l'être humain, un corps complètement n'importe, mais qu'il peut déplacer à la volonté de sa pensée. Ce que faisait Saint-Germain en son temps et d'autres. Alors, bien évidemment, dans la méditation, un des buts attendus par la hiérarchie de lumière, eh bien, c'est que les êtres attendent le retour de Maitreya. Donc, ils s'offrent comme canal.
Justement, dans la méditation, c'est une concentration, et donc, on ne respire pas vraiment beaucoup.
Physiquement ?
Oui, mais on a une petite respiration.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dépassée. Le corps physique est d'une certaine façon oublié, et donc il fonctionne, il faut le laisser fonctionner, il ne faut pas s'en occuper, il ne faut pas s'occuper de la respiration. Alors maintenant, vous avez, je pense, déjà observé que quelqu'un qui va s'endormir, on sent que sa respiration, en fait, baisse. D'accord ? Bon, mais ça, c'est pour partir dans le sommeil. Et le phénomène est un peu semblable quand on s'élève parce que, en fait, bah, le corps est mis dans l'oubli. Nos sens physiques ont besoin d'être baissés en vigilance. Hein. Du point de vue technique, la méditation est le processus par lequel le centre technique est éveillé, maîtrisé, utilisé. Lorsqu'il en est ainsi, l'âme et la personnalité sont coordonnées et fusionnées. Alors, il faut faire attention qu'il n'y a jamais de séparation. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, c'est comme des cycles, comme un soleil qui se lève, qui est au zénith, qui repart sur une courbe d'évolution supérieure. Mais c'est pour vous montrer que, en fait, il ne faut pas être là à dire tout ça, c'est bien des portes bien précises. Non, c'est un processus, en fait, de réalisation dynamique. Bien sûr, il y a le rythme qui s'installe. Avec l'emploi des mots, le disciple éveillé éveille une réponse du centre majeur de la tête et provoque une vibration réciproque entre celui-ci et la glande pinéale, centre physique de la tête, et coordonne progressivement les forces dans la tête. Avec l'emploi des mots, il faut savoir que, en son temps, l'humanité avait reçu l'usage de la langue sacrée qui commandait aux forces de la nature, c'est-à-dire aux êtres énergies. La faute de l'humanité ayant été, bien évidemment, en son temps, de faire un usage séparatif de ce savoir. Et donc, parmi les sanctions, l'humanité a perdu cette langue qui commandait aux forces de la nature. Alors là également, j'apporte une précision, il ne faut pas penser qu'il n'y avait qu'une seule langue sur la Terre à cette époque-là. Non. Il y avait des langues de telle ou telle région de la Terre. Simplement, les êtres qui, en son temps, se présentaient à l'époque pour sortir du règne humain, eh bien, il aurait été donné l'accès à cette langue sacrée. Je vous rappelle que, à l'époque lémurie, un être maîtrisait son corps physique, il pouvait sortir du règne humain. À l'époque atlante, il pouvait sortir du règne humain par la maîtrise de son corps émotionnel. Aujourd'hui, dans la race aryenne, par la maîtrise du mental, l'être pourra sortir du règne humain. C'est pour vous montrer qu'il y a une perfection relative selon les cycles d'évolution. Nous sommes dans la cinquième race. Dans la septième race, il faudra qu'il y ait la maîtrise de l'intelligence, de l'amour et une approche embryonnaire de la volonté, de l'énergie de volonté divine. C'est pour vous montrer qu'au fur et à mesure, eh bien, comme on dit, la qualification s'accentue. Sixième race ?
Oui.
Sixième race, c'est l'énergie d'amour-sagesse pleinement maîtrisée. Quand il est dit, par exemple, qu'un Maitreya ou le Bouddha sont de la sixième race, non pas, comme on dit, tombés avant tout le monde, non, ils sont en champ de conscience de la sixième race. Mais la septième race, ça impliquera qu'il y ait intégration de la volonté divine. Pourquoi seulement intégration ? C'est parce que nous ne sommes encore que dans le deuxième système solaire.
Le règne race, c'est équivalent ?
Ah non ! Dans la traversée du règne humain, va développer sept races. Et de ces sept races, va émerger le règne spirituel et le règne divin. Ce qu'on appelle le cinquième règne, si tu veux, c'est le règne spirituel. Dans le cinquième règne, tu as aujourd'hui des êtres qui sont en cycle de sortie, troisième période du cinquième règne, et en fait, ils sont en train de pénétrer le champ de conscience du sixième règne. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de séparation. Aujourd'hui, si tu veux, tu as un cinquième de l'humanité qui est dans le cinquième règne. Vous savez que malheureusement, il y en a quatre cinquièmes qui ont des difficultés à l'assumer. Mais dans le cinquième règne, la partie, d'accord, tu as aujourd'hui des êtres qui sont dans le sixième règne. Ne serait-ce que les guides déjà présents sur Terre. Ils appartiennent au sixième règne. Alors, les guides, tu as deux collèges. Tu as ceux qui ont choisi le sentier du service terrestre. Donc, ils sont attachés à la Terre pour guider l'évolution des règnes. Je ne parle pas du règne humain, de tous les règnes. Et puis, depuis 2000 ans, tu as tous ceux qui sont sortis du règne humain et à qui Maitreya a demandé de ne pas partir ailleurs et poursuivre leur évolution pour renforcer le processus de réalisation. Il y a deux collèges, en fait. Tu as ceux qui sont officiellement, et eux, bah oui, ils sont connus au sens où les plus importants sont, comme on dit, bien définis dans leur fonction. Et puis, tu as des êtres qui sont guides, mais qui n'ont pas une fonction à l'intérieur même de la hiérarchie énergétique. Alors, les mots, on était sur les mots. Eh bien, le moment venu, l'être a accès à la langue sacrée. Et à ce moment-là, il lui est confié, en fait, de pouvoir solliciter les énergies de la hiérarchie ou les énergies de la maison du Père, mais, bien évidemment, à lui d'être extrêmement vigilant de leur usage. Et bien évidemment, il faut user avec discrétion de cette énergie. La langue sacrée, c'est une langue qui déclenche chez les êtres énergie réponse de ce que contient la formulation. Il y a 2000 ans, le maître des guides vous a laissé comme message l'exercice en question. Il demande aux êtres énergie et il fait des miracles, mais il n'use que de la science sacrée. Quand l'homme était en état paradisiaque, il ne travaillait pas. C'était les lignes d'énergie qui manifestaient. Il a besoin de pain, il demande la matérialisation des pains. Il a besoin de poissons, il demande la matérialisation de poissons. Mais c'est pour vous montrer les pouvoirs potentiels de l'être humain qui, en état divin, ne s'appelle plus des pouvoirs, mais l'usage simplement d'une collaboration pleine, riche, entière et respectueuse avec les êtres de la nature. Alors, la pensée agit sur le plan mental. Les sons matérialisent sur le plan éthérique, terrestre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme voit les couleurs et entend les sons. Les êtres énergie voient les sons et entendent les couleurs. Et par conséquent, il y a eu séparation entre les deux lignes pour qu'il n'y ait plus un mauvais usage des êtres énergie. Parce que l'évolution humaine, nous avons à arbitrer entre le bien et le mal. Donc, exercice de discernement. Les êtres énergie n'ont pas cette obligation. Eux, leur rôle, c'est de faire à l'exactitude ce qui est demandé. En d'autres termes, ils n'ont pas à raisonner, ils ont à ressentir. Et bien évidemment, le retrait de cet accès direct a été pour les protéger. Parce que les êtres humains ont généré une cacophonie dans le monde d'Evic. C'est la mère. Et par conséquent, n'est confié ce savoir qu'aux êtres qui ont le respect de la mère et le bien de l'ensemble. Mais l'être qui est concerné ne voit pas ça comme des pouvoirs. La quête de pouvoir est le piège. Il n'est qu'un serviteur et il en use à ce titre.
Ce sont des robots, les êtres d'énergie.
Non, parce qu'ils ont leur propre évolution. Simplement, ce qu'il faut distinguer, c'est que, au même titre que tu as la vie dans le minéral, la vie dans le végétal, la vie dans l'animal, et dans le règne humain, le règne spirituel, le règne divin, le règne cosmique, avec les différents niveaux de champ de conscience, eh bien, tu as les gnomes, les lutins, les elfes, les syphiles, les anges, hein, les salamandres, les anges, les archanges, ainsi de suite. Donc, la soi-conscience, elle est atteinte par les deux évolutions dans le règne humain. Il faut savoir que ces deux évolutions rentrent dans le règne humain pour acquérir la soi-conscience. C'est la caractéristique du règne humain. Après, les vies peuvent repartir chacune dans telle ou telle évolution. Un être humain qui sort du règne humain peut partir dans l'évolution des grands dévas. D'un côté, c'est les centres d'énergie, de l'autre côté, c'est l'énergie. Pour détails techniques, pour rentrer dans le règne humain, les vies d'Evic vont prendre des véhicules qui ralentissent leur circulation énergétique. C'est-à-dire que pour ralentir leur souffle, leur course permanente, ils vont passer par le règne des poissons ou le règne des oiseaux. Ça les amène à ralentir leur vitesse. Bon. Et après, ils rentrent dans le règne humain. Alors, c'est ce qui fait, si vous voulez, que vous allez avoir des êtres qui viennent de l'évolution d'Evic, comme Messian, qui disait « Qui peut me dire que quand j'entends des sons, moi je vois des couleurs ?» Messian a demandé toute sa vie qui pourrait lui expliquer pourquoi il voit des couleurs. Non, il entend des sons, et lui, il voit des couleurs.
Mais c'est normal, puisque c'est une vibration qui se quantifie de la même façon.
Oui, mais c'est pas, je dirais, la nature de l'être humain.
Puisque ça ne sont pas les mêmes vibrations, c'est pas la même nature de vibration. Les couleurs, ce sont des vibrations électroniques, alors que les sons, ce sont des vibrations mécaniques. C'est pas vraiment la même chose.
Oui, mais ils ont des longueurs mesurables de la même façon.
Et c'est pas le même éther qui fonctionne. Le son, c'est le troisième éther, alors que les couleurs, c'est le quatrième éther. Le moment venu, l'être peut recevoir, ou ça lui est transmis, cette connaissance, ce retour à la connaissance de la langue sacrée. Bah oui, le mot le plus connu, c'est Aum.
Ça, c'est Aum.
A, le souffle. U, le cercle infranchissable de manifestation. Et M, c'est les vibrations de la mer. Aum, hein, A-U-M, en fait, c'est une vie qui projette son souffle dans les robes de la mer et détermine un cercle infranchissable. Ça, le sens du Aum. Alors, bien évidemment, vous pouvez prononcer, parce que c'est connu, le Aum comme tel, mais la puissance de ce que vous énoncez repose sur votre compréhension du subtil des choses. Alors, par contre, vous avez le retour.
Ça, c'est le Aum.
Moi, le Fils, je suis esprit, matière, lune, soleil. Que j'ai fait là un soleil et en dessous la lune, c'est le Om, O-M, au sens où l'être de lumière peut dire « Moi le Fils, je suis fait d'esprit, symbole, le soleil, et de matière, la lune. » Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux sens du Aum et du Om? Hein, le premier Aum, c'était le souffle présenté par le A, avec le U qui détermine en fait l'espace de manifestation occupé par ce souffle, et le M, c'est les vibrations des robes de la mer. Alors, la langue sacrée, en fait, est la langue universelle du système cosmique. Au fur et à mesure qu'un être grandit en réalisation, il a accès à des fréquences de plus en plus élevées qui, bien évidemment, détermine une capacité de puissance. Quand Maitreya faisait ses miracles, le Christ cosmique était à bord. Il n'y a qu'une seule vie. Hein. Quelle était la nécessité? C'était la qualification de la présence terrestre. Maitreya peut supporter un champ énergétique lié au Christ cosmique. C'est ça qu'il faut saisir, c'est qu'en fait, à nous de nous élever pour atteindre la vie une qui est en nous. Et donc nous avons des paliers intermédiaires. Ce qui veut dire que la première invitation de Maitreya, c'est de vous dire, quand vous êtes trois, je passe ma puissance. Quand vous êtes sept, un Bouddha d'activité passe sa puissance. Quand vous êtes 21, le Père, le Logos planétaire, peut passer sa puissance. Ensuite, on passe au groupe. Un Logos, un être rang solaire, parce que, attention, bien sûr, pour la simplification, on va toujours désigner Logos planétaire, Logos solaire, mais il faut savoir que vous avez des grandes vies intermédiaires. Hein. Bon, eh bien, un Logos solaire, il lui faut 7 groupes de 7 personnes. Vous voyez, ainsi de suite. Parce qu'il faut qu'il y ait des écrans réducteurs. Bah, de toute façon, on arrive au bout, puisqu'après, on passe à un autre sujet. Est-ce que vous avez des autres questions à poser ?
Le principe de Kototama, qui passe pour être justement donc, la langue universelle sacrée.
Je vais te dire que cette langue n'est donnée que lorsqu'il y a mise au secret. Je réponds à ta question. Elle ne peut pas être publiée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette langue, ces mots, sont alimentés par la racine de vie. Et que même si un mot était publié, celui qui le prononcerait n'aurait aucun accès à l'énergie, puisque s'il n'est pas relié à sa racine de vie, c'est l'être morte. Hein, simplement, il y a la discrétion, il n'en reste pas moins que tout est sous contrôle, et par conséquent. Mais autrement, l'énergie est déclenchée. Hein.
Oui, mais si par la pratique, peut-être n'est pas en plus, effectivement, ce qui concerne Kototama, donc... La traduction, ça équivaut à un mot âme. On perçoit effectivement que par la pratikama, les sons deviennent lumière.
Ce que tu évoques là, tu dis un âme de lumière. C'est tout à fait ce plan-là. Là, je t'évoque la langue sacrée qui relève de la racine de vie. Bah, de toute façon, même humainement parlant, vous voyez très bien que les mots qu'on utilise déterminent des types d'énergie. Ce que tu énonces, ça va relever du beau, du bien, du vrai, ou ça va relever malheureusement de... D'accord ? Bon, ce qui veut dire que c'est le principe même du système. Simplement, actuellement, la langue humaine n'interpelle plus les êtres énergie. C'est l'aura que tu vas dégager liée au mot qui interpelle. C'est-à-dire qu'en fait... L'être énergie, il va t'amener les matériaux de la couleur de l'aura que tu auras généré par ta pensée. Mais il y a un palier intermédiaire. Tandis que la langue sacrée enclenche immédiatement la réponse de l'être énergie. Tu comprends ? Là, il sait. Mais ça passe non pas par le déva lunaire, si tu veux, ça passe par les grands dévas, qui eux enclenchent la réponse des dévas lunaires. On passe pas par... c'est les frères noirs qui manipulent les lunaires. L'être de lumière n'utilise pas l'accès au lunaire. Il passe par les dévas solaires. C'est plus simple. Bon, voilà.